Bon. Comme vous pouvez le voir, ce matin, mon cœur était de pouvoir vous partager ou de vous exhorter à pouvoir rentrer dans un domaine de l'Église qui est hyper important. Alors, là aussi, vous pouvez me reprendre en disant, mais Fred, tous les domaines de l'Église sont importants. Déjà, rien que l'Église, c'est important. Merci, Julien. Je l'attendais. Tous les domaines de l'Église sont importants. Et vous savez quoi, des fois, on se remémore ou j'essaye de me situer par rapport à l'Église. Tout ce que l'on peut faire, tout ce que l'on fait, tout ce que l'on a fait, tout ce que l'on va faire dans l'Église. Et c'est super de voir comment on est structuré aujourd'hui. C'est hyper important de voir que vous arrivez le lundi matin ici à 7h30, on est en prière. Quand vous allez sur Meet le mercredi soir, il y a de la prière. Quand vous venez le dimanche matin ici à 8h30, il y a de la prière. Quand vous venez à certains moments du mois, alors c'est vrai qu'avec le Covid ou avec la Covid comme vous voulez, mais il y a des choses qui ont été freinées. Mais vous pouvez voir qu'il y a des activités dans l'Église qui font qu'on est tous là pour grandir et progresser. Vous êtes d'accord avec ça? Je vais vous partager juste une expérience que j'ai vécue. Beaucoup le savent, j'ai fait l'école biblique à l'église de Mulhouse, donc avec Jean-Marie Ribet, qui en est le directeur. Et on a eu pendant cette période, pendant cette formation, on avait des moments où on devait aller là-bas à Mulhouse. On était sur place pendant tout un week-end et on a eu 4 week-ends comme ça où on était réellement plongé dans le travail de l'église de Mulhouse. Et puis, ce qui m'a réellement surpris, le premier week-end où on est arrivé, ce qui m'a surpris, vous savez ce que c'est? C'est que dans l'église, le samedi après-midi, c'était une vraie fourmilière. Vous aviez des gens partout qui étaient affairés pour l'œuvre de Dieu. Donc, il y avait l'équipe de louange qui était en train de répéter. Vous aviez Quartier Libre qui se préparait pour partir dans les rues, pour évangéliser auprès des enfants. Vous aviez tous les domaines qui étaient là, ceux qui étaient dans la librairie qui bossaient. La librairie était ouverte, etc. C'était une fourmilière. Il y avait quelque chose qui était là et qui faisait qu'on n'était plus dans une église, on était dans un centre chrétien, quelque chose qui travaillait pour Dieu. Et ça m'avait fait un bien fou parce que je me suis dit, mais bon sang, c'est beau ça. J'ai l'impression d'être tout seul ce matin. Je vais vous secouer ce matin. Je vais vous dire des choses qui ne vont peut-être pas vous plaire ou qui vont vous plaire. Et je préfère qu'elles vous plaisent plutôt qu'elles vous déplaisent. Mais aujourd'hui, mon cœur, je vais vous le mettre là sur le pupitre. Pourquoi? Parce que quand j'annonce un titre comme celui-là, savoir-faire et faire savoir, à la fois ce sont mes études qui reviennent, mes études de marketing, parce que vous savez que ça, c'est une règle dans le marketing. On a un savoir-faire, il faut le faire savoir. Si on prend, je prends un exemple tout concret, c'est que vous savez qu'à Waterloo, on a un pâtissier boulanger. Est-ce que vous le connaissez? Oui. Tout le monde connaît David? Oui. Bon, c'est vrai qu'il fait du bon pain. Bon, il est meilleur chez Auchan, mais j'aime bien le pain de David. Mais il a un savoir-faire et il le fait savoir. Et vous savez comment? Eh bien, il a une vitrine et il a une boulangerie parce qu'il vend son savoir-faire. D'accord? Son savoir-faire, il le fait savoir parce que les gens, les clients, viennent dans la pâtisserie et la boulangerie, achètent le pain. Et pourquoi ils reviennent? Parce que le pain est bon, le pain est de qualité, le pain est croustillant. Surtout nous, les Français, on aime bien le pain. Il y en a qui n'aiment pas le pain ici? Bon, tant mieux, parce que je vais citer un passage qu'on a pris lundi matin. Et c'est Christiane qui dirigeait la réunion de prière lundi et... Bon, je ne sais pas ce qu'elle avait, cette fois-ci, elle était réveillée. À 7h30, des fois, elle dort, mais là, elle était réveillée. Et tu vois, je t'avais dit que ça allait se payer. Et en fait, on a prié, on a pris tout notre moment de prière et on a parlé du Notre Père. Le Notre Père. Et dans la prière du Notre Père, vous savez que c'est Jésus qui a dit, qu'à un moment, on est venu le voir, on lui a dit, mais comment est-ce qu'on doit prier? Et Jésus était très clair, il a dit, voilà comment vous devez prier Notre Père, qui est aussi... Et on la connaît, la récitation. Mais est-ce que cette récitation est réellement une prière dans ton cœur? Parce qu'à un moment, dans la prière du Notre Père, tu dis, donne-nous notre pain quotidien. Donne-nous notre pain de ce jour, comme vous voulez. Et on est tous à penser au pain croustillant de David. Parce que Jésus connaissait déjà David à cette époque-là. Il était déjà client de la boulangerie de David. Mais si on extrapole et si on va même plus loin, le pain quotidien, c'est votre pain spirituel. Et c'est vrai que j'ai une introduction qui est peut-être un peu longue, mais quand on a un savoir-faire et un faire-savoir, moi, ce que je voudrais aujourd'hui vous partager, c'est l'enseignement. Le fait de pouvoir rentrer dans ce que Dieu veut pour toi, pour nous, dans notre croissance spirituelle. Et cette prédication, elle est un petit peu dirigée, on en parlait avec Chanel l'autre jour. On va bientôt vous annoncer quelque chose de sympa. Ça va être, on va développer tout le département croissance. Je ne vais pas vous en dire plus, je vais vous mettre un petit peu l'eau à la bouche parce qu'avec Chanel, on est en train de préparer le truc. Il y a déjà pas mal de choses qui sont déjà dessinées. Mais vous allez pouvoir vous éclater. D'accord. Merci Ève. Une chance que j'ai Ève. C'est Ève, hein, Café You. Ouais, c'est toi, Ève. Je reconnais ta voix. Voilà. Les Amen, je reconnais Julien, et quand c'est des You, je reconnais Ève. Mais voilà. Non, vous allez pouvoir vous éclater parce qu'on veut faire en sorte que l'Église soit en pleine croissance. Je ne dis pas que vous ne l'avez pas aujourd'hui, hein, ce n'est pas ça. Mais ça fait maintenant quelques années que le groupe croissance a été mis sur place, mis sur pied et en route. Avec la Covid, j'ai dû arrêter un petit peu et ça nous tarde de pouvoir reprendre ça. Mais il y a déjà pas mal de choses qui sont à votre disposition par rapport à l'enseignement. Mais là, on va continuer. Et on va développer. Et ce département dont on vous parlera, vous verrez, j'aurais tendance à dire qu'il n'est pas... c'est pas facultatif, si vous voyez ce que je veux dire. Je ne vais pas aller dans l'autre sens et être désagréable pour vous dire c'est obligatoire, mais je le pense quand même fortement. J'aimerais réellement que l'on puisse tous rentrer dans cette notion de dire la Bible, je veux aller plus loin dedans. Je veux aller plus loin. Et on va vous aider à ça. Attention, je ne suis pas le meilleur de tous, hein, je n'ai pas dit ça. C'est vrai que ça repose sur les épaules de plusieurs ici, on a toute une équipe qui enseigne, mais on veut réellement pouvoir partir plus loin que ça. Alors vous voyez, apparemment, bon vas-y Cassandre parce que je vais pas galérer avec. Il y a Confucius qui a dit « Apprendre sans réfléchir est vain, réfléchir sans apprendre est dangereux ». Vous savez que j'aime bien les citations. Hein. Et souvent ça parle. « Apprendre sans réfléchir est vain, réfléchir sans apprendre est dangereux ». Pourquoi j'ai mis cette citation-là ? C'est tout simplement parce que la Bible, elle est là. Elle est vivante. On peut mettre plusieurs qualificatifs sur la Bible, sur le livre de la Bible. Déjà, une chose qui est certaine, et tout de suite on le dit dans Jean 1, au verset 1, je ne l'ai pas mis dans mon PowerPoint, mais c'est que la parole est Dieu. La parole était avec Dieu, et la parole est Dieu. Est-ce que déjà, sur ça, vous êtes d'accord avec moi ? Eh bien, on n'est pas nombreux à être d'accord. C'est toi qui as dit Amen ? Ah ouais, d'accord. La parole est Dieu. La parole est Dieu. Et en fait, la parole, il faut savoir que c'est notre histoire. Quand je dis la parole, c'est la Bible. Tout ce qui a été inspiré par Dieu, qui est écrit aujourd'hui dans un gros bouquin, c'est inspiré de Dieu, parce que la parole est Dieu. Et en fait, toute cette parole, que vous alliez de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est notre passé, notre présent, notre futur. Pourtant, je dis des choses bien, hein. J'aimerais bien. D'accord ? Et en fait, la parole, elle nous apprend plein de choses. Elle nous apprend à connaître Dieu. Elle nous apprend ce que l'on est aujourd'hui, ce que l'on sera demain. Elle nous dit qu'après la mort, il y a même au-delà de la mort. Elle nous enseigne réellement l'éternité. Elle nous enseigne réellement à pouvoir rentrer dans quelque chose qui est glorieux, qui est merveilleux. Et c'est ça, la Bible. Aujourd'hui, moi, je ne suis pas là pour vous apprendre à lire. Je ne suis pas là pour vous apprendre à lire un livre. Et qui plus est, je ne suis pas là pour vous apprendre à lire la Bible. Je suis là pour vous aider à aimer lire la Bible. Voyez la nuance ? C'est que la Bible, si vous vous plongez dedans, eh bien, je le vis à chaque fois que j'ouvre ma Bible et que je commence à lire ma Bible, j'ai les yeux scotchés dessus. Il y a quelque chose qui est attirant, qui fait qu'on a envie d'aller plus loin, on a envie d'en connaître plus. Et c'est vrai que je ne suis pas quelqu'un qui la connaît par cœur, la Bible, je connais pas mal de passages, mais il y a des choses qui, quand je les relis, ça me fait un bien fou. L'autre fois, j'ai avoué Antoine que quand il a fait sa prédication, vous savez, sur les deux prophètes. Vous vous souvenez de cette prédication sur les deux prophètes? Il y a un prophète qui va pour donner une prophétie à un peuple et Dieu lui dit surtout ne reviens pas sur tes pas. Il dit tu rentres tout de suite. Tu rentres parce que à 18h, c'est le couvre-feu. D'accord? Et que il y a un autre prophète qui va le voir et qui lui dit mais non, moi, Dieu me dit que tu dois venir chez moi. Il revient sur ses pas et boum, il meurt. Vous vous souvenez de cette histoire? Moi, je ne m'en souvenais pas. Quand Antoine l'a prêché, c'était pour moi une première fois, c'est-à-dire que je ne me souvenais pas de ça. Et je me suis dit, mais bon sang, mais il y a tellement de leçons dans cette histoire qui est là, avec deux prophètes. Pourquoi deux prophètes se tirent dans les pattes? Et pourquoi il y en a un qui est un faux prophète et l'autre qui est un vrai prophète? Et pourquoi on a ça aujourd'hui? Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ça peut être une leçon à prendre? Parce qu'une histoire comme celle-là, eh bien forcément, on peut la vivre aujourd'hui et on la vit aujourd'hui. Aujourd'hui, pourquoi j'ai envie de vous partager ce désir d'enseignement, ce désir de pouvoir vous plonger dans la Bible, c'est tout simplement parce que je vois beaucoup trop de chrétiens pour qui le Facebook est la parole de Dieu. Ça fait mal, hein ? Je suis comme tout le monde, je suis sur Facebook. Moi, j'aime bien mettre des petits trucs humoristiques sur Facebook, et puis voilà, mais... Quand je vois des gens qui vont mettre des doctrines ou des choses comme ça, et puis qu'en dessous, je lis les commentaires, et des fois, on voit des trucs complètement absurdes, et puis qu'il y a des chrétiens qui disent « Amen » ou qui mettent un petit commentaire « Ah oui !» Eh bien, la parole qui est dans Osée, vous savez, Osée 4-6, qui nous dit « Faute de connaissance, mon peuple est en train de périr. » Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, mon peuple est plongé dans Facebook. Attention, j'ai rien contre Facebook, hein. Il y a du bon dans Facebook. Il y a beaucoup de mauvais, mais il y a du bon. Et c'est là où il faut absolument qu'on revienne aux bases. C'est là où absolument il faut que nous puissions faire confiance en Dieu, parce que Dieu a envoyé son Saint-Esprit pour que l'on puisse avoir le Saint-Esprit qui nous inspire et qui nous révèle des choses quand on lit la Bible. Allez, je vais faire un petit peu de lecture. Vas-y, Cassandre. On va faire pas mal de lectures, d'accord ? Jean 14, 23-25. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime... » Est-ce qu'il y a des gens qui aiment Jésus ici ? En fait, il faut que je mette Jésus dans les phrases pour que vous réagissiez. D'accord, j'ai compris, il faut que je percute. Hein, c'est... Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et... dans Jean 1, verset 1, il est bien dit que la parole est... Il y en a quatre qui ont suivi. Donc, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. C'est chaud quand même. Et il y a une grosse condition, là. Si on aime Jésus, si on garde sa parole, c'est alors que le Père nous aime. Je pense qu'on a la même compréhension tous là. C'est un passage qui est important. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Nous viendrons. Ils sont plusieurs. Pourquoi nous, il y a assez de place? Bon oui, chez moi, le premier qui dit oui chez toi, Fred, il y a de la place. Je lui mets un coup de boule. Donc nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. C'est-à-dire que Jésus dit que le Père l'inspire pour dire que si on ne garde pas ses paroles, nous ne sommes pas du Père et que le Père ne nous aime pas. 25. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom. Et ils sont plusieurs donc. Ils sont bien plusieurs. Il vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est pour moi un postulat qui est incontournable. C'est-à-dire que si on a ça dans le cœur, forcément, eh bien, dès à midi, en mangeant votre poulet, vous allez déjà ouvrir votre Bible pour la lire. C'est-à-dire qu'on est obligé, quelque part, c'est un passage incontournable. Il faut que l'on puisse être dans le Père, qu'on soit en Jésus-Christ. Et pour ça, il faut qu'on l'aime, qu'on garde sa parole, et qu'on puisse avoir le Consolateur qui vive en nous pour pouvoir nous révéler les secrets de la parole. Parce que c'est un autre aussi, un autre qualificatif de la Bible, c'est qu'elle est bourrée de mystères, la Bible. Elle est bourrée de mystères. Franchement, moi, il y a des moments, quand je lis Romains ou que je lis Apocalypse, j'ai envie de passer à l'autre. Hein. Suivant, next, comme vous savez. Cassandre, vas-y, suivante. Un autre postulat que je suis obligé de prendre, Éphésiens 6. Tout le monde connaît Éphésiens 6. Tout le monde sait que dans Éphésiens 6, on parle de l'armure de Dieu. Tout le monde sait ça. Ou si vous ne le savez pas, vous l'apprendrez quand on va développer croissance, croyez-moi. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. C'est-à-dire que là, il faut absolument que l'on puisse garder tout ce que l'on a. Il faut que l'on tienne ferme quand il y a les tribulations et qu'une fois qu'on a passé les tribulations, il faut qu'on reste ferme. Et c'est bien parce qu'en ce moment, on est en pleine tribulation. Tenez donc ferme, ayant à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Le zèle que donne l'évangile de paix. Ça veut dire que si j'ai l'évangile en moi, je vais être zélé. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Et regardez bien, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Est-ce que vous avez déjà vu un soldat sur un champ de bataille? Dernièrement, vous savez, j'ai fêté mes 50 ans. Et joyeux anniversaire. Ouais. Et j'ai eu un super cadeau. Un super cadeau. J'ai eu une vidéo qui durait une demi-heure. Avec tout plein de petits témoignages d'amis qui me sont chers, vraiment, que je porte dans mon cœur. Et j'en ai déjà les larmes qui me montent aux yeux encore une fois. Il y avait des photos de moi. Et à un moment, il y avait une photo de moi où je suis à l'armée. J'ai fait l'armée, ouais. Je suis un mec de 70, donc j'ai fait l'armée. Je suis de contingent 90-10, d'accord. Et à l'armée, un jour, on dit, on va vous prendre en photo en tenue d'apparat, etc. On vous file un fusil de guerre, hein, donc un FAMAS à l'époque, et vous posez avec un fusil. Et j'ai cette photo où je suis beau, jeune, avec des cheveux. Enfin, à l'armée, on n'en a plus beaucoup, mais voilà, j'avais des cheveux à l'époque. Et j'ai ce fusil de guerre qui est là. Et en fait, ce fusil, il faut savoir qu'il a d'énormes qualités. Alors, en ce moment, ils sont en train de le remplacer parce qu'ils ont trouvé encore pire que le FAMAS. Mais le FAMAS, c'est un fusil avec lequel vous faites mouche à 9 km. D'accord? Vous tirez et la balle, 9 km. Bim. C'est quand même pas mal. Et j'ai tiré à la balle de guerre. C'est des balles qui sont longues de ça. D'accord? J'ai tiré à la balle de guerre et c'est un fusil qui n'a aucun recul. D'accord? Vous tirez, vous avez l'impression de tirer avec les petits pétards, machin. Et en fait, quand vous êtes sur un champ de bataille, et comme là, on a une épée, mais un guerrier a besoin d'une arme offensive. On a besoin d'une arme offensive. Je ne suis pas quelqu'un qui va promulguer la guerre. Ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire. Mais on a besoin pour vivre un combat spirituel, parce que, croyez-moi, nous sommes dans une guerre spirituelle en ce moment. Et depuis le début, nous sommes dans une guerre spirituelle. Il faut absolument que nous soyons conscients de ça. Mais pour ça, il faut que nous puissions avoir les bonnes armes. Et l'armure de l'Éternel, elle est là pour que nous puissions en être revêtus et avoir l'épée qui est la parole de Dieu, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Vous avez envie de ça? Parce qu'après, je distribue les... Non, c'est pas... Vas-y, Cassandre. Je ne vais pas les lire, clairement, mais là, 4 pages, je vais passer 4 pages, rapidos, et vous pouvez voir que dans les évangiles et dans Actes, il y a un verset, mais dans les évangiles, il y a 47 versets qui nous disent que Jésus enseignait. Jésus enseignait. La première chose qu'il a fait quand il a commencé son ministère, il a monté une équipe. Et on nous dit qu'il les a appelés apôtres. Et les apôtres, il les a formés. Et Jésus, à partir du moment où il arrivait dans une ville, il allait dans le temple ou il allait dans n'importe quel endroit, mais le peuple venait à lui pour être enseigné. Et il faut absolument que l'on puisse arriver dans une église, quand je parle de l'église, c'est le regroupement de tout ce que l'on est, c'est avoir ce cœur, cette envie, cette soif, ce feu, ce désir ardent de pouvoir dire « Seigneur, moi j'ai envie de mieux te connaître ». Vous savez pourquoi le monde aujourd'hui nous dénigre autant? C'est parce qu'ils ne nous connaissent pas et ils ne connaissent pas Dieu. Vous savez, quand vous avez un ministre qui dit que les évangéliques sont dangereux, c'est parce qu'il ne nous connaît pas. Et s'il nous connaissait mieux, et s'il connaissait mieux Dieu, comme nous, nous le connaissons, ou que nous aspirons à mieux le connaître, il aurait un petit peu plus d'amour pour dire des choses comme ça. Donc là, on va rapidement les passer. Vas-y, Cassandre, première. Donc là, j'ai pris tout, Matthieu. Ça, c'est une mine d'or. Hein. Si vous voulez voler les 4 pages là, avec les 47 versets, je pouvais vous les filer. Parce que c'est vraiment, vous voyez, si on prend le premier puits et on ouvre la bouche, il les enseignait et dit, 2 points, Matthieu 7, 28, après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine. Matthieu 11, 1, lorsque Jésus achevait de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays, etc., etc. Le deuxième, on a Marc, vas-y Cassandre, Marc, Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes. Donc vous voyez, dans Marc, c'est là où il y en a le plus. Je ne vais pas tous les lire, ce n'est pas le but. Mais là, c'est là où on se rend compte qu'il y a quelque chose, il y a une émulation. Jésus était là pour vraiment mettre quelque chose en place. Et il faut absolument que ça, nous puissions le faire perdurer. Suivante, Luc. Voilà. Suivante, Jean. Il n'y en a que 3 dans Jean. Acte, il n'y en a qu'un. Regardez. Théophile. Je ne parle pas du Théophile qui est dans la salle. J'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Dès le commencement. Mais c'est tellement important de pouvoir avoir cette envie, cette soif-là. Parce que Jésus aime ça. Et vous savez, quand on rentre réellement dans ce que... Le terme doctrine, aujourd'hui, peut être considéré un peu comme négatif. Et pourtant, on nous dit que Jésus a enseigné une doctrine. Mais à partir du moment où on va rentrer dedans, qu'on va avoir cette soif et ce feu, on va se rapprocher de Dieu. Et forcément, il y aura des démonstrations de ce que Dieu est réellement. Pourquoi ? Parce qu'on le connaîtra mieux. Parce qu'on associera le Saint-Esprit avec la parole de Dieu. Parce que l'épée de l'Esprit, c'est la parole de Dieu. Quand on prend la parole, forcément... Il y a 2 choses qui doivent ressortir de nous. Et quand on prend le verset qui est en dessous, Luc 6, 47, « Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. » Forcément, il y a une émulation qui sort de ça. Et quand on prend la parole et qu'on la lit, on la médite, on la digère, on la rumine, ouais, je peux prendre tous les qualificatifs qui ont trait au bovin, aux vaches, mais c'est ça la Bible, c'est de pouvoir ruminer quelque chose. C'est de pouvoir dire, oui, j'ai envie de plus. Quand Antoine, l'autre fois, a prêché avec ses 2 prophètes, j'ai réappris quelque chose. Et j'ai été content de réentendre ça. Parce que même si on lit la Bible, des fois, on oublie des choses. Et c'est là où l'émulation de la Bible fera qu'on pourra toujours, les uns et les autres, jouer au ping-pong en disant « Souviens-toi, dans la Bible, il est écrit ça. » Peut-être que certains d'entre vous, vous êtes dans l'épreuve. Et peut-être que là, tout à l'heure, avant de partir, il y a quelqu'un qui va venir vous voir en disant « Mais tu sais, dans la Bible, il est écrit que... » Et puis toi, tu vas arriver et puis tu vas dire « Mais c'est vrai, je ne me souvenais pas de cette promesse. Et pourtant, elle est là. » Elle est là. Et ce chrétien qui est là avec toi, ce frère, cette sœur, eh bien, tu vas pouvoir le bénir en disant, bah, je te remercie parce que c'est vrai que je ne l'avais plus dans le cœur, ce passage de la Bible. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Donc les deux grandes choses, c'est tout d'abord, c'est la révélation. Quand on lit la Bible, on a des révélations. Quand on lit des passages, des fois, eh bien, il y a un mot qui va nous percuter. Un seul mot. Ou c'est tout un passage, ou c'est tout un livre. La dernière fois, je vous disais que dernièrement, j'ai relu Jérémie. Jérémie m'a fait un bien fou parce que c'est dur d'ailleurs. C'est un livre qui est dur, mais j'ai eu à cœur de le lire et je me suis rendu compte que Jérémie était vraiment un prophète d'actualité. Il est d'aujourd'hui. Il y a eu cette révélation en me disant, mais oui, c'est vrai que tout ce qui est écrit dans Jérémie, c'est exactement ce qu'on vit aujourd'hui dans certaines religions. Donc forcément, si tu lis ta parole, tu auras des révélations. Et forcément, il faudra que tu puisses rentrer dans l'obéissance. Parce que Luc 6, 47 nous dit « Je vous montrerai à qui est semblable tout homme ou femme qui vient à moi. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi. Entends mes paroles, donc cet homme qui entend mes paroles et qui les met en pratique. » La Bible va pouvoir te préserver de certaines choses. Quand on voit aujourd'hui ce que moi j'appelle les guerres de clochers dans certaines églises, des fois vous avez des gens qui quittent une église pour aller en construire une à côté, parce qu'ils ne sont plus en accord avec l'église, donc qui ne partent pas sous la bénédiction. Et pourtant, qu'est-ce que dit la Bible? Et c'est là où on pourrait revenir à des bases. C'est que, ok, monte une église, d'accord, mais pourquoi est-ce que tu la montes? Parce que Dieu t'a montré quelque chose, il t'a donné une vision nouvelle pour que tu puisses monter une église, parce qu'il t'a donné une vision claire, nette, précise, en disant, voilà, je t'appelle à monter une église ici, parce que t'as, tac, tac, tac. Ou est-ce que tu montes cette église parce que tu es en désaccord avec ton pasteur et que, eh bien, comme tu es en désaccord avec lui, bah, tu vas monter une église en face, de l'autre côté de la rue? Bah, crois-moi, tu n'es plus sous la bénédiction. Dieu ne peut pas construire sur quelque chose qui n'est pas à la base sur un fondement pur et saint. Vous êtes d'accord avec moi toujours? Là, je vous assomme. Hein. Et pourtant, il n'y a pas lieu d'être assommé. Parce que si réellement on met les choses, qu'on rentre dans cette révélation et cette obéissance de ce que la parole de Dieu est prête à nous donner, forcément, je ne vais pas dire qu'on sera des gens saints, parfaits, et pas de parfaits. Ça n'existe pas. On aura toujours des moments de faiblesse, des moments de péché. Mais voilà, Dieu est là pour nous rappeler des choses et nous faire des promesses. Ça, c'est le dernier passage que je prends de Timothée 3, 14 à 17. Souvenez-vous de 2 Timothée 3, 16. Souvenez-vous de 2 Timothée 3, 16. Vous savez qu'on aime bien citer Jean 3, 16. Ça va? Tout le monde connaît Jean 3, 16? Dieu a tant aimé le monde... qui a donné son fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas. Voilà. Eh bien, dans le même ordre d'idée, vous avez 2 Timothée 3, 16. Le 3, 16 est important dans la Bible. D'accord? Donc, je commence le 14. Toi, donc c'est Paul qui parle à Timothée, qui est son disciple. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues. Je vais le reprendre. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres. Tu connais les saintes lettres. À l'époque, hein, la Bible n'existait pas. Hein. Ils travaillaient avec la Torah. D'accord? Ce qu'on appelle le Pentateuque, les 5 premiers livres du Nouveau Testament. Tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture, donc le Vlal 16, toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Et le 17, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Wow! Vous savez l'expression la messe est dite? La messe est dite. Jean 3, 16. 2 Timothée 3, 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Dans la justice. Je vais juste vous l'imager ça. Et après, je vais m'arrêter parce que je vois qu'il est déjà moins 25. Je vais vous l'imager. Il y a un truc que moi, j'aime bien faire, c'est de la photo. J'aime bien faire de la photo. Et c'est vrai que ces derniers temps, voilà, c'est plus avec mon iPhone qu'avec cet appareil-là. Mais vous voyez, ça, tout le monde sait ce que c'est, un réflexe. Ce qu'on appelle un réflexe, c'est ça. C'est un appareil photo. Et cet appareil, il est en deux grandes parties. D'accord? Vous avez ici le boîtier et vous avez un objectif. Et j'aime bien déjà le fait que ça s'appelle ça, un objectif. Le boîtier, c'est vous. Le boîtier, c'est toi. D'accord? Tu as, comment dire, des caractéristiques. Tu as... des choses qui sont en toi, des qualités, tu as des paramètres. Dieu t'a paramétré pour que tu puisses être un outil fiable, un outil sérieux à ses yeux, un outil dont il pourra se servir parce qu'il sait pertinemment que tu as ta place dans l'Église. Je vais le refaire. Ça, le boîtier, c'est toi. Non, je plaisante. Le boîtier seul ne sert à rien. Ça, si je tire une photo avec ça, ma photo, elle sera complètement floue, il ne se passera rien. D'accord? J'ai beau avoir un flash pour avoir plus de lumière, j'ai beau pouvoir l'allumer, mettre sur n'importe quel programme, sur n'importe quel ISO, en fonction de l'intérieur, extérieur, peu importe, on s'en fout, ça ne sert à rien. Ça veut dire que Dieu a mis des choses en moi, des caractéristiques qui font que j'ai tout le potentiel pour pouvoir être développé. Mais si je ne vais pas mettre un petit accessoire dans ma vie, ma photo sera toujours floue. Et si je mets des objectifs dans ma vie, je ne sais plus le mettre, voilà. Si je mets un objectif dans ma vie, ou des objectifs en fonction d'eux, hein, si bien évidemment j'enlève le cash, hein, vous savez, la Bible dit, elle parle des œillères hein, qu'on a devant les yeux, hein. Si on l'enlève, le cache, eh bien là, on a tout le potentiel pour pouvoir faire de la superbe photo. Et là, c'est ta créativité à toi qui fera qu'avec l'objectif ou les objectifs que Dieu va rajouter à ta vie, tu vas pouvoir faire des choses merveilleuses pour Dieu. Quels sont ceux qui n'ont pas compris? Et c'est vrai que je peux en mettre plusieurs, hein, des objectifs. Hein. Des objectifs, ils sont plus ou moins grands. Hein. C'est-à-dire que Dieu peut très bien me mettre un petit objectif pour que je puisse avoir des projets locaux, comme on dit. C'est-à-dire qu'avec un objectif comme ça, qui va jusqu'à 35 de focale, je peux très bien prendre quelqu'un ici en portrait, mais ça n'ira pas beaucoup plus loin. Et si je veux vraiment me rapprocher, par exemple, d'Esther qui est là-bas, là, je vais mettre carrément un zoom. Et là, je vais peut-être pouvoir la prendre en gros plan, en fonction du zoom que je vais mettre sur mon boîtier. Et bien tout ça, c'est Dieu qui va le mettre en vous. Et comment il va faire? Il va faire en sorte que vous puissiez en prendre conscience et que vous puissiez les développer. Grâce à quoi? Grâce à sa parole. Et à la révélation par son Saint-Esprit. Même objectif. Hein. Ici, sur mon zoom, j'enlève le cache. Hein. D'accord? Ça vous parle? Je vais vous les laisser là, comme ça, vous allez pouvoir vous en imprégner. Je vais, pour terminer, je vais citer une dernière citation. C'est bête hein, de dire ça, je vais citer une dernière citation. Excusez la redondance. Il faut apprendre non pas pour l'amour de la connaissance, mais pour se défendre contre le mépris dans lequel le monde tient les ignorants. Charlie Chaplin. Tout le monde connaît Charlot. Cette citation est de lui. Il faut apprendre, non pas pour l'amour de la connaissance, mais pour se défendre contre le mépris dans lequel le monde tient les ignorants. Et excusez-moi, je vais te cacher, Facebook tient certains chrétiens et les prennent pour des ignorants. Je parle de Facebook parce que c'est le réseau social le plus connu, même si les jeunes nous disent « Mais papa, il n'y a que les vieux qui utilisent Facebook aujourd'hui. On est tous sur Instagram maintenant. Donc il va falloir que je me mette à Instagram. Mais je ne comprends rien à Instagram. » Les réseaux sociaux, c'est fou. Non, le meilleur réseau social qui existe, c'est la Bible. C'est la Bible. Il y a une chose qui est amusante aussi. Je ne sais pas si vous avez vu la pub Kinder en ce moment à la télé. Il y a quelqu'un qui montre une tablette de Kinder et dit voilà, cette tablette n'a pas le Wi-Fi, cette tablette ne prend pas de photos, cette tablette ne. Mais voilà, par contre, c'est une barre de chocolat, elle est super bonne, quoi. Ben, c'est pareil. Et vous avez la Bible qui est là, qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin, tout ce réconfort que peut donner aussi le chocolat. C'est bon le chocolat, on aime bien le chocolat, nous, chez nous. Mais la Bible, la parole de Dieu, qui est Dieu, si on la prend, si on la lit, si on la médite, si on la relit, et si on la re-relit, et si on la re-re-relit, et je peux aller loin comme ça, croyez-moi. Mais voilà, 3 points de suspension. Je vais m'arrêter là. Mon objectif aujourd'hui, c'est vraiment de pouvoir, l'un de mes objectifs aujourd'hui, c'est de pouvoir vous avoir donné l'envie de dire, mais Fred, qu'est-ce que vous nous avez préparé au phare? À quoi est-ce qu'on va s'attendre? Parce que si je reviens au tout début de ma prédication, quand je vois la structure de l'Église, où on a un département intercession, on a un département ménage, on a un département, on a l'équipe pastorale, on a le département avec tous les responsables, on a le département communication, et qui font un travail comme ça, on a le département de la technique, on a le département de... Et on a le département de l'enseignement. Et à partir de là, vous êtes obligés de trouver votre place au phare. Vous ne pouvez pas, ne venez pas me voir pour me dire, mais Fred, je ne sais pas où est ma place dans l'Église. Ce n'est pas possible. Forcément, Dieu a mis sur ton boîtier, sur toi qui est le boîtier, il a mis un objectif, il a mis quelque chose. Et si tu as du mal à trouver cet objectif, si tu as du mal à te saisir de ce que Dieu a mis dans ta vie, si tu as du mal à vraiment cerner ce pourquoi Dieu t'appelle, viens nous voir. Viens nous voir. C'est tellement bon de pouvoir servir Dieu. C'est tellement bon de pouvoir servir Dieu. De pouvoir être avec lui. C'est bon de pouvoir faire avancer les choses et de voir les choses avancer. Hier matin, on a eu une réunion pastorale avec notre famille d'église Emma. On était 30 connexions du monde entier. Il y avait les quatre coins de la France, il y avait la Réunion, il y avait la Belgique, on a des contacts aussi en Angleterre. Sur cette conférence, il y avait un Vénézuélien, il y avait un Américain avec Chris. On touche tout le monde. Ce n'est pas parce qu'on est les meilleurs, c'est tout simplement parce que le royaume de Dieu nous permet de toucher le monde entier. Avec tout ce que l'on est. Mais pour ça, il faut qu'on puisse réellement être avec Jésus et de pouvoir se laisser enseigner, être enseignable. Et ça va être le sujet d'une autre prédication, être enseignable. On va se lever et on va faire comme... j'aimerais avoir un fond, Sergio, si tu veux bien, même avec Paul, hein, enfin l'équipe de louanges, vous pouvez venir. On a pris cette habitude des fois d'écouter le prédicateur finir par une prière, sa prédication, et de se reposer sur quelqu'un qui est devant tout le monde. Moi, ce que je voudrais réellement, c'est que ce matin, tu puisses faire cette introspection en toi et de pouvoir te dire, voilà, aujourd'hui, où j'en suis. Est-ce que réellement ma connaissance de la parole me permet, si je vais dehors et que quelqu'un vient me voir en disant « Mais toi, au fait, toi, tu es chrétien, vous savez, comme il s'est passé avec Jésus, avec Pierre, quand il y a les gens qui sont venus voir Pierre et ils ont dit « Mais toi aussi, tu étais avec lui, là. » Et que Pierre disait « Mais non, je ne le connais pas. » Et au contraire, il faut qu'aujourd'hui, dans la rue, si quelqu'un te dit « Mais toi, je t'ai vu, tu sortais de l'église du phare, là-bas. Dis-moi en plus, c'est qui ton Dieu? Pourquoi tu vas à l'église ?» Eh bien, que tu puisses être capable de lui faire partager un ADN qui est là, ton ADN spirituel, en disant, voilà, la Bible dit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, et Dieu a donné son Fils pour toi, pour que tu puisses réellement aujourd'hui mettre ta vie en ordre avec lui. Que tu puisses citer des passages de la Bible, parce que la Bible sera avec toi, elle sera en toi, elle sera tatouée dans ton cœur, et ça va pouvoir te permettre d'avoir un témoignage qui soit vivant, parce que la Bible est vivante. La Bible est vivante. Pourquoi elle est vivante? Parce que c'est la parole de Dieu. Et si c'est la parole de Dieu, pourquoi? C'est parce que c'est Dieu. Et pourquoi Dieu est bon? Parce que Dieu est vivant. Amen. Et s'il est vivant tout court, et ça veut dire qu'il est vivant dans ton cœur, et s'il est vivant dans ton cœur, il sera vivant pour celui que tu vas côtoyer dans la rue. Et qui aujourd'hui est perdu. Peut-être que tu as des gens perdus qui vont venir te voir. Et qui vont te dire, ouais, moi j'ai besoin de ce que tu as. Je vois que dans ton cœur il se passe quelque chose. J'ai besoin de ça, donne-m'en plus. Et là tu vas pouvoir commencer à l'enseigner.